notre chroniqueuse politique Jacinthe Eve Harel est avec nous. Comment ça va?
Ça va bien.
Hey, t'as-tu passé une belle semaine? Une belle fin de semaine aussi?
Bien sûr, bien sûr.
Bien profité?
Bien sûr.
Parfait, parfait. On s'est pas parlé depuis toute cette histoire, puis ça brasse pas mal chez Québec solidaire. On va y revenir tantôt. Parlons de ce qui se passe aujourd'hui pour commencer la jasette de ce matin, ce lundi 6 mai. Cette rencontre entre les maires du Québec et Geneviève Guilbeault concernant les déficits dans les sociétés de transport en commun aujourd'hui. Tu t'attends à quoi de cette rencontre-là?
Bien, on va enfin pouvoir mettre les cartes sur table entre les quatre maires parce que Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports, a convoqué les quatre maires des quatre régions, des quatre villes qui gèrent des sociétés de transport qui se disent en déficit, donc Montréal, Québec, Laval et Longueuil. Donc, on va s'entendre sur les chiffres ou on espère s'entendre sur les chiffres. Quels sont les déficits réels? Quels sont les déficits qu'on peut imputer à la baisse de l'achalandage et les chiffres qu'on peut imputer aux déficits structurels? Parce que là, bon, il y a des gros déficits de prévus. Est-ce que la ministre des Transports va être ouverte à éponger une partie des déficits qui sont liés à la baisse de l'achalandage depuis la pandémie? Donc, on n'est pas revenu à l'achalandage d'avant la pandémie. Alors que les maires, eux, demandent d'absorber le déficit complet. Donc, il y a une portion qui est attribuable au déficit structurel. Alors là, il va y avoir des guerres de chiffres. Mais au-delà de ces guerres de chiffres-là, bon, est-ce qu'on va s'entendre sur ces chiffres-là? Quels sont les chiffres qui sont associés au déficit lié à la baisse de l'achalandage, déficit structurel? Est-ce que la ministre des Transports est prête à faire un bout? Mais l'autre chose, c'est est-ce qu'elle est prête à faire un bout pour cette année seulement ou pour les années subséquentes aussi? Parce qu'il faut savoir que ces déficits-là, c'est cette année, mais on anticipe aussi des déficits pour l'an prochain, ouais, l'année suivante. Donc là, il y a aussi ça qui va être à regarder. Est-ce qu'une seule rencontre va permettre d'établir des ententes, des points d'entente? J'en doute fortement. Ça risque d'être le début d'une plus longue conversation.
Ouais. Puis politiquement, est-ce que la CAQ a beaucoup à gagner à se battre pour ne pas donner beaucoup d'argent aux sociétés de transport? Parce que dans l'opinion publique, il y en a beaucoup. Je ne sais pas à quel point c'est une majorité qui est forte, mais qui disent, là, à un moment donné, ça va faire payer pour ces dettes-là. Fait qu'est-ce que c'est très politique, la CAQ, de tenir son bout pour pas en donner autant pour bien paraître aux yeux de la population?
Oui, j'ai l'impression qu'il y a une belle composante politique importante parce que on les voit, hein, il y a des bonis, on voit de temps en temps les articles passer sur les salaires des cadres dans les sociétés de transport, les bonis aux cadres, des dépassements de coûts qui sont pas toujours justifiés, des achats pas toujours justifiés qui sont faits par les sociétés de transport, toutes sortes de dépenses qui sortent à gauche, à droite, qui permettent à l'opinion publique ou au grand public de se dire, bien, finalement, il y a du gras dans lequel on aurait pu couper dans les sociétés de transport. Alors, au bout du compte, si c'est le gouvernement du Québec qui absorbe ces déficits-là, bien, c'est les contribuables qui payent au bout du compte, là.
Est-ce que cette rencontre-là vient trop tôt? Parce que, tu sais, il va y avoir le projet de loi pour créer une agence de transport. On n'a pas encore les résultats des audits qui se font dans les sociétés de transport. Et là, on se rend compte pour parler de chiffres. J'ai l'impression qu'on n'a pas mis les choses dans le bon ordre. Je me trompe-tu?
Oui, c'est vrai que ces fameux audits que Geneviève Guilbeault a commandés dans les sociétés de transport, on doit attendre ces réponses-là, doit attendre ces audits-là avant de prendre des grandes décisions. Donc, c'est vrai que j'espère que ces discussions-là permettent simplement d'enlever un peu de pression dans la marmite pour permettre d'avoir un dialogue entre les personnes concernées plutôt que de sortir dans les médias tout bout de champ puis de se lancer la balle. Mais en même temps, il ne faudrait pas que les grandes décisions soit prise tant qu'on n'a pas les résultats, parce qu'il y a réellement des comptables qui regardent les budgets actuellement et qui sont en train de statuer si c'est vrai qu'on peut couper dans le gras. Il est à quelle hauteur le gras dans le budget?
Ben, c'est ça, c'est combien de millions ce gras-là? Parce que je peux bien dire au maire Marchand, tu vas assumer 150 millions, mais si finalement l'audit dit qu'il peut en assumer 70, on n'est pas plus avancé que le 80 qui reste. Là.
Exactement. Mais j'ai hâte de voir aussi, il n'y a personne qui évoque une idée très importante. Les parcours, étant donné qu'il y a une baisse d'achalandage, l'analyse des parcours, il n'y a pas d'analyse de parcours qui se sont faits. Ces parcours-là existent parfois depuis des dizaines d'années dans certaines villes et la technologie nous permettrait de regarder à chaque arrêt d'autobus qui entre, qui sort, combien de passagers utilise les parcours, à quelle période. On a de l'intelligence artificielle, on a de l'informatique quantique qui nous permettrait au détail près, chaque oui. arrêt, chaque parcours, chaque heure, chaque demi-heure, chaque 10 minutes, de déterminer l'achalandage et de peut-être finalement demander à des intelligences artificielles et des systèmes informatiques complexes de revoir certains parcours, de couper, d'ajuster les horaires et de faire des grosses économies. Ça, il n'y a personne qui en parle. Donc, j'espère que ces discussions-là vont aussi mener peut-être à la ministre des Transports d'évoquer certaines idées avec les sociétés de transport.
Ou on envoie juste Jeff Fortin sur le terrain. Il l'a déjà fait, l'exercice d'aller voir s'il y avait des gens dans les
Non, mais ce que Jacinthe dit, c'est vrai. T'es avec le système nomade qui a été implanté à partir de 2016 au RTC, maintenant, les gens qui structurent le service ont la donnée exacte et précise combien de personnes à tel arrêt embarquent, débarquent. Fait que quand je vois qu'il y a 52 % d'achalandage dans les express par rapport à 2019, il y a nécessairement 48 % d'amélioration du service qu'on peut faire slash économie.
Oui, puis même le volume de GES émis par passager. On dit toujours, ah, un autobus, ça peut contenir... je ne veux pas me lancer dans un chiffre, mais ça équivaut à tant d'automobiles au niveau des GES. Oui, mais attends une minute, là, ça équivaut à tant d'automobiles s'il est plein ou s'il a une certaine capacité. Mais si on regarde certains parcours... Moi, j'habite là, à Québec, là, je les vois, les autobus. Puis là où j'habite, dans mon quartier, la majorité du temps, c'est de 2 à 4 passagers par autobus, puis passe aux 10 minutes. Là. Donc, je me dis, hey, la quantité de GES est mise par passager pour certains parcours. Là, j'ai l'impression qu'on est peut-être plus polluant pour certains numéros d'autobus, certains parcours, que si on laissait ces gens-là prendre l'automobile. En même temps, l'idée, c'est pas de couper, j'en conviens, mais il reste que faut être honnête dans notre volonté de vouloir décarboner, puis arrêter de dire ça prend absolument tout le temps l'autobus. Peut-être que ça prend des mini-autobus, peut-être que ça prend d'autres systèmes de transport en commun, des gros autobus comme on voit à Québec, mais quand on voit que régulièrement, c'est 2, 3, 4 passagers dans ces gros autobus-là sur des longs trajets, c'est polluant, ça, là.
Jacinthe-Ève, Geneviève Guilbeault dit qu'elle n'est pas en chicane avec le maire Bruno Marchand. Est-ce que tu crois, Mme Guilbeault, et est-ce que c'est juste une création de nous, les gens dans les médias, cette chicane ou cette histoire-là?
Bien, je pense que Mme Guilbeault essaie de s'élever au-dessus de ça parce qu'elle est... Moi, dans ce conflit, voyez-vous, j'utilise quand même le mot conflit, dans ce conflit perçu.
Dans cette relation-là.
Dans cette relation-là, on voit beaucoup de colère du maire de la Ville de Québec, Bruno Marchand, à l'endroit de Geneviève Guilbeault. Ouais. On ne perçoit pas tant que ça de colère de Geneviève Guilbeault à l'endroit du maire de la Ville de Québec.
Des petites répliques comme nous, au moins, on a eu des soumissions. Là, mais...
mais justement, donc, j'ai l'impression qu'elle essaie de s'élever au-dessus de ses attaques personnelle, parce que c'est pas la première fois, là, Bruno Marchand remet en question la compétence de Geneviève Guilbeault. Elle essaie de s'élever au-dessus de ça en disant, écoutez, non, il n'y a pas de conflit. Je pense qu'elle essaie, elle, d'avancer, mais il y a certainement, s'il n'y a pas de conflit entre les deux personnes, il y a certainement un conflit de vision.
Ouais.
C'est bien quand même de voir qu'elle essaie d'outrepasser ça, cette idée d'avoir peut-être des conflits de personnalité, puis d'essayer d'avancer.
Parlant de conflit, tu es dans les pantalons de Gabriel Nadeau-Dubois ce matin. Tu prends ça de quel côté, Québec solidaire? Là, je riais parce qu'il y a plein de chroniqueurs qui disent « Ah, Gabriel Nadeau-Dubois, maintenant, c'est carré rouge à gérer. » Je trouve l'image très bonne. Mais c'est vrai, en même temps, tu sais, c'est cette fameuse aile extrémiste-là avec laquelle Québec solidaire est pris comme le Parti conservateur du Québec avec l'aile de droite.
Oui. Bien, tous les partis ont leur frange plus radicale. On le voit aussi chez les péquistes. Il y a les souverainistes purs et durs qui voulaient absolument un référendum dans un premier mandat du PQ. Les autres qui disaient non, il faut gouverner avant, il faut placer les choses. Tous les partis politiques, tu l'as bien nommé, au Parti conservateur du Québec, c'est la même chose. Il y a une frange plus radicale. Et Québec solidaire est pris aussi avec sa frange plus radicale, mais Québec solidaire est aussi né grâce à sa frange radicale. Alors là, quand il y a une portion de ce parti-là qui décide de se centrer ou d'élargir sa portée électorale, bien, c'est sûr que là, les racines de ce parti-là, qui sont un peu plus radicales, bien, vont soit créer un schisme puis peut-être vouloir partir dire autre chose, se détacher. Mais c'est clair que c'est pas drôle à gérer pour Gabriel Nadeau-Dubois, mais il fait face lui-même. Il fait face lui-même à la réalité auquel il a fait face étant plus jeune. Mais c'est ça, la réalité aussi, quand on vieillit. On a des idéaux quand on est à l'université, quand on est au cégep, quand on est jeune, quand on débute sur le marché du travail, qu'on ne paye pas beaucoup d'impôts. On a des grands idéaux. Puis en vieillissant, on met au monde des enfants, on fait face à la vie.
Soudainement, on a besoin de l'auto.
Oui, c'est ça!
mais pour QR, j'ai l'impression, ça va tellement être intéressant de suivre ce débat-là, parce que moi, je regarde au-dessus de moi, puis je suis dans cette branche d'âge-là, de gens que Québec solidaire, c'est la plus belle invention depuis le pain tranché. Puis là, je regarde ça, puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui voient justement plus Québec solidaire comme un parti pas nécessairement de gouvernement, mais un parti d'idées. Puis que là, ben si on n'est pas super à gauche, ben là, ben voyons, ils nous ont menti pendant des années, ils ont ri de nous autres à nous faire croire qu'ils étaient... Beaucoup plus de gens que je pensais, là, qui veulent débarquer carrément si on essaye d'être un peu plus réaliste dans nos idées. Je trouve ça épeurant pour les gens de QS qui sont peut-être un peu plus allumés puis qui ont des idées qui ont un petit peu plus de bon sens.
Oui, c'est effectivement... Il y a beaucoup de gens qui sont attirés vers le programme de Québec solidaire, qui sont des puristes. C'est sûr que ce recentrage-là ou cet effort d'essayer d'être plus pragmatique ne rejoint pas la majorité des gens. Mais on va le voir avec les élections aussi. Il y a la refonte où il y a des propositions qui vont être faites par Québec solidaire. Il va y avoir des votes sur certaines propositions. Donc, on va le voir aussi. On va être capable de le chiffrer puis de vraiment prendre la mesure de qui appuie cette initiative-là d'efforts de pragmatisme puis de recentrage versus ceux qui sont plus puristes. Mais moi, je vois poindre à l'horizon cette éventualité-là qu'il y ait un schisme. Puis que, tu sais, les grandes démocraties ont beaucoup plus que de partis politiques que ce qu'on a ici. On est une jeune démocratie quand même dans l'histoire. Donc, c'est possible aussi qu'éventuellement, ça permette la naissance d'un nouveau parti qui va vouloir rester plus puriste, mais on va encore une fois diluer l'électorat, puis c'est pas ça qui est souhaité non plus par ce parti-là.
Jacinthe-Ève, est-ce que c'est le moment de grands changements chez Québec solidaire? Est-ce que c'est le temps de changer, entre autres, la structure, peut-être passer à autre chose, puis abolir l'idée de co-porte-parole?
Bien, je pense que oui, mais ça va être aux membres à décider. Mm-hmm. Je pense certainement que ça vaut la peine au moins de poser les questions puis de faire voter les membres puis de regarder est-ce que la majorité des membres sont ouverts à revoir le mode de fonctionnement. Ça a été implanté comme ça il y a longtemps. Le parti s'est renouvelé en partie. Il y a des nouvelles générations qui ont joint les rangs. Donc, ça vaut la peine de le faire, mais c'est sûr que ce parti-là, se pose les bonnes questions. Mais en même temps, quand on dit qu'on a un désir de gouverner puis qu'on veut un peu plus se recentrer, ils vont se faire reprocher non seulement par la frange plus radicale qu'ils laissent tomber leurs grands idéaux puis se dénaturent pour pouvoir prendre le pouvoir, mais ça, c'est un pari qui est risqué parce qu'en voulant se recentrer, ils veulent attirer plus d'électeurs. Mais c'est possible aussi que les électeurs se disent « Non, 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 mais on ne se fera pas avoir avec un programme un peu plus... moins radical, un peu plus rationnel, une fois au pouvoir, on sait très bien c'est quoi leur racine. Une fois au pouvoir, on sait très bien qu'est-ce qui va se passer. Mm-hmm. Donc, c'est un grand risque aussi qui est pris par Québec solidaire de vouloir être plus pragmatique parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais là, ils nous auront pas avec leur... » Voyons, on a lu votre programme dans les 10-15 dernières années. On sait très bien que c'est ça votre idéal. Donc là, vous voulez juste aller chercher des électeurs puis après ça, vous allez faire comme Bruno Marchand.
Jeudi dernier, on avait Martine Desjardins en entrevue sur toute la DPJ, le suivi de la commission Laurent. On a terminé l'entrevue en lui demandant est-ce que Gabrielle Nadeau-Dubois est un bon leader? Puis elle n'a pas voulu répondre en disant qu'elle ne voulait pas se mêler de la politique. Je te pose la question, moi, en tant que chroniqueuse politique, c'est un bon leader? C'est-tu le leader, ça prend pour Québec solidaire?
Bien, pour l'instant, il a tellement pris de place qu'on associe Québec solidaire à Gabriel Nadeau-Dubois. On ne pense pas naturellement à quelqu'un d'autre qui pourrait prendre la relève. Il a bâti quelque chose. On peut pas faire autrement que dire qu'il a bâti Il a bâti quelque chose avec ce parti-là, au sein de ce parti-là. Il incarne bien son parti. Il y a d'autres figures autour de lui, mais c'est un gars de pouvoir, Gabriel Nadeau-Dubois. Il s'est beaucoup approprié le pouvoir. Maintenant, est-ce que c'est un bon leader? Moi, je n'ai pas travaillé avec lui. Je ne le sais pas. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de critiques. On le voit à la permanence. On entend moins parler, mais à la permanence du parti, il y a déjà 3 employés qui ont quitté la semaine dernière. Donc, ça brasse. Son leadership va être mis en question. Il a quand même terminé avec une bonne cote l'année dernière lorsqu'il y a eu un vote de confiance à son égard. Est-ce qu'il va se resoumettre à un vote de confiance pour voir à quel point ça a baissé? Ça pourrait être un pari intéressant qu'il pourrait prendre aussi, parce que s'il se soumet à nouveau à un vote de confiance puis que ça ne baisse pas tant que ça, il pourra dire « Regardez, je fais démentir tous ceux qui remettent en question mon leadership. Regardez, je suis encore fort. »
Jacinthe Avarel, notre chroniqueuse politique, toujours un plaisir. Mais ça a été, on se parle quoi, aux semaines à peu près, puis c'est fou comment il y a du stock qui se passe dans le monde de la politique. Merci de passer nous voir ce matin, puis bonne semaine, Jacinthe-Ève. Après la pause, on a pu lire dans le journal en fin de semaine que les profs méritent mieux de la part de leur syndicat. On parle ici de la FAE, c'est l'avis de Marisa Nadeau, qui est enseignante aux primaires dans la région de l'Outaouais, et on va lui en parler tout de suite après la pause de Rage Against le matin.
Jusqu'à 10 heures.